Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le 13-14, une heure d'information à la mi-journée sur France Inter, à la une aujourd'hui. Comment s'éclairer et se chauffer en 2050 tout en limitant les gaz à effet de serre? Le gestionnaire du réseau électrique RTE rend son rapport très attendu. 6 scénarios avec plus ou moins de nucléaire ou de renouvelable. On les détaillera dans le journal avant de les commenter avec notre invité, porte-parole de l'association Négawatt. Il répond à vos questions à 13h30, 01 45 24 7000. État d'urgence déclaré au Soudan, gouvernement dissous. Le président Emmanuel Macron condamne une tentative de coup d'État. Nous ferons le point sur place dans quelques minutes. Dans le journal encore, Coca et Danone, champions de la pollution au plastique. Une ONG vient de dévoiler les résultats de son étude de terrain dans les forêts, sur les plages et le long des rivières. Le 13-14 vous emmène cette semaine dans les marais salants de l'île de Ré. Premier épisode de notre feuilleton à la rencontre des sauniers, en l'occurrence d'une saunière qui nous raconte ses longues journées.
Je préfère récolter le gros sel le matin, si j'arrive à me réveiller comme il faut. Et ensuite, on réembauche en fin d'après-midi vers 17h pour faire la cueillette de la fleur de sel. Et puis la journée se termine vers le coucher du soleil, parce que c'est un moment aussi sympa que l'aube.
Un feuilleton à suivre à 2h moins le quart. Dans le journal, on demandera à la secrétaire d'État à la jeunesse ce qu'elle compte faire pour pallier les problèmes de recrutement dans le secteur de l'animation. De plus en plus d'enfants sont privés de centres aérés ou de périscolaires. Sarah El Haïry sera notre invitée. Et puis on vous dévoilera le nom de l'auteur du prix Femina, le nom de l'auteur récompensé par le prix Femina, remis dans les toutes prochaines minutes.
France Inter. Le 13-14.
Atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est possible. Première conclusion du très attendu rapport d'RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Bonne nouvelle donc pour le gouvernement et pour l'environnement. Reste une question, et pas des moindres. Comment faire? Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Vous étiez ce matin à la présentation de ce rapport par le gestionnaire du réseau électrique RTE, qui a élaboré 6 scénarios pour arriver à l'objectif tout en augmentant la production électrique.
Eh ben oui, le but du jeu, c'est bien de se passer d'ici 2050 des énergies fossiles, hein, pétrole, gaz, charbon, qui entrent aujourd'hui à 63% dans la production d'énergie. Avec cet objectif de neutralité carbone, la part de l'électrique va considérablement augmenter pour devenir la principale source d'énergie du pays. Le défi est donc de produire plus d'électricité, beaucoup plus 35% d'ici 2050, avec un parc nucléaire vieillissant. Le but final étant non seulement la neutralité carbone, mais aussi la sécurité de l'approvisionnement, qui est évidemment primordiale. Donc, voilà ces 6 scénarios élaborés par RTE après 2 ans de réunions, consultations, concertations, en prenant en compte, et c'est une première, les projections du GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat. 6 scénarios dont aucun ne dépend d'une seule source d'énergie, mais qui vont d'un scénario 100% énergie renouvelable à un scénario qui s'appuie le plus sur le nucléaire, et entre les deux, 4 scénarios avec des panachages différents des uns et des autres, dont 3 qui n'impliquent pas de construction de nouveaux réacteurs nucléaires et 3 qui reposent au contraire là-dessus.
C'est une étude manuelle de ces 6 scénarios par le gouvernement qui permettra de faire des choix d'avenir en fonction des coûts, des limites technologiques et de l'impact sur l'environnement, bien sûr.
Eh ben voilà, c'est bien ce que dit aujourd'hui RTE. Ils fournissent les outils pour prendre les décisions, des décisions qui relèvent effectivement du politique et qui sont de vrais choix de société. Quoi qu'il arrive, dit le rapport, il faudra développer à grande vitesse les énergies renouvelables. Les scénarios avec énergies renouvelables sont plus chers. Il y a 10 milliards d'euros de différence entre 2 scénarios assez proches, mais un avec plus de nucléaire et avec un plus d'énergie renouvelable. Il faudra du soutien public, quoi qu'il arrive, dit le rapport. D'un point de vue économique et strictement économique, construire de nouveaux réacteurs est pertinent, dit encore ce rapport. Ceci dit, tout est également nuancé, vous l'avez dit, avec l'évolution des technologies et l'impact environnemental. Les coûts de production ne devraient pas, eux, augmenter plus de 15%. Quant au prix final, pour le consommateur, il ne va pas exploser, affirme RTE, dans la mesure où le consommateur économise sur sa consommation de pétrole et de gaz au bout du compte.
Manuel Ruffez pour France Inter en direct de la Défense en région parisienne avec les moyens techniques de Frédéric Cailloux. Le point sur ces scénarios à retrouver sur franceinter.fr. On en reparle aussi à 13h30 avec notre invité porte-parole de l'association d'experts en énergie Négawatt. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Et le but de cette neutralité carbone, c'est bien sûr d'éviter ou de ralentir le réchauffement climatique et ses conséquences. Les pays du monde entier ont d'ailleurs rendez-vous dans une semaine en Écosse à Glasgow pour fixer de nouveaux objectifs de réduction des émissions de CO2 et essayer de maintenir le réchauffement sous les 2 degrés d'ici la fin du siècle. Pour l'instant, on risque d'atteindre 2,7 degrés. La quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a atteint un sommet l'an dernier, apprend-on ce matin. Conséquence, ça chauffe en Arctique notamment. Les températures grimpent 2 à 3 fois plus vite qu'ailleurs. Sandy Dauphin, l'envoyé spécial de France Inter, l'a constaté dans l'archipel norvégien de Svalbard, sur l'île du Spitsberg.
À Longyearbyen, chef-lieu du Svalbard, la température annuelle moyenne a augmenté d'environ 5 degrés ces 40 dernières années, d'après les relevés de l'Institut polaire norvégien. Cet archipel, situé à 1300 km du pôle Nord, est un laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs et étudiants venus du monde entier.
Moi, je suis venu ici sans savoir quoi que ce soit sur les glaciers. Puis ensuite, on nous amène sur le terrain. C'est une expérience d'apprentissage unique.
Thibaut Desjonquières, en licence de géologie, fait partie des quelques 200 étudiants du centre universitaire du Svalbard, un imposant bâtiment moderne construit à l'entrée du village.
Mon groupe était le groupe qui se chargeait de faire le bilan de masse du glacier. On pensait que le glacier allait disparaître dans les 80 prochaines années, par exemple.
L'université partage ses locaux avec l'Institut polaire norvégien.
C'est ici que l'on stocke tout notre équipement.
Un hangar immense rempli de combinaisons, balises, matériel en tout genre pour les expéditions polaires. Steve Hudson, chercheur d'origine américaine.
Ici, les changements se produisent tellement rapidement qu'on peut étudier le processus. C'est presque en temps réel, au lieu de le modéliser et de faire des prédictions. On observe ce qui s'est déjà produit et on peut ainsi valider les modèles.
Et si l'Arctique se réchauffe plus vite qu'ailleurs, c'est parce que...
C'est une combinaison de facteurs. Le plus facile à comprendre, c'est le fait que les pôles sont recouverts de glace et de neige qui réfléchissent la lumière du soleil. Si ça fond, la surface absorbe plus de chaleur et c'est un cercle vicieux.
Dans quelques jours, ce chercheur quitte l'Arctique, direction le pôle sud pour une expédition en Antarctique, l'autre région du monde qui se réchauffe le plus rapidement.
Reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Sandy Dauphin. Toute la semaine, on parle de ce changement climatique sur Inter avec nos reporters et spécialistes, et notamment une série de Zoom tous les matins à 7h15. La France condamne fermement une tentative de coup d'État au Soudan et exprime son soutien au gouvernement de transition par la voix d'Emmanuel Macron qui poste un message sur le réseau social Twitter. La Ligue arabe, l'Union africaine et l'Union européenne s'inquiète. État d'urgence déclaré au Soudan, gouvernement dissous, Khartoum, la capitale soudanaise, est coupée du monde, plus d'aéroports ni de vols internationaux. Des soldats quadrillent la ville, ils ont même tiré sur les manifestants. Le Premier ministre est en résidence surveillée, arrêté tôt ce matin par l'armée avec plusieurs autres dirigeants. Récit sur place avec Elliot Brachet.
Le général Abdel Fattah al-Burhan vient de s'exprimer à la télévision. Il a déclaré l'état d'urgence et la dissolution des instances de transition. Un gouvernement sera formé avec des personnes compétentes, selon ses propres mots. En bref, les généraux reprennent le contrôle jusqu'à ce que des élections soient tenues, selon le chef des armées. En attendant, depuis ce matin, les communications sont coupées à Khartoum. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a été arrêté et détenu dans un lieu inconnu. L'armée a également arrêté le ministre de l'Information, des Télécommunications, ainsi que la plupart des civils au sein des autorités de transition. La radio et la télévision d'État sont également sous leur contrôle. Actuellement, il y a des milliers de personnes qui descendent dans les rues contre le coup d'État en cours. Ils auraient encerclé le QG de l'armée et prennent la direction du palais présidentiel. Mais selon plusieurs sources, des soldats auraient tiré directement sur la foule. Je me trouve sur un toit aux alentours de l'aéroport. On entend régulièrement des tirs à balles réelles et les sirènes des ambulances. Partout ailleurs, des panaches de fumée et des barricades dressées par les manifestants. Aujourd'hui, il est clair que les militaires n'ont pas écouté les centaines de milliers de personnes qui défilaient la semaine dernière dans tout le pays pour réclamer un gouvernement 100% civil. Les généraux sont en train de réaliser un coup de force, mais pour le moment, la rue ne se laisse pas faire.
Et à l'instant, le président français appelle également au respect de l'intégrité du Premier ministre. À l'étranger encore, elle était accusée d'avoir laissé mourir de soif une petite fille de la minorité kurdophone yézidi, réduite en esclavage en Irak. Une Allemande vient de se voir condamnée à 10 ans de prison pour meurtre. La trentenaire appartenait à l'État islamique et avait rejoint l'organisation en Irak en 2015. Les ambassadeurs occidentaux, y compris l'ambassadeur français en Turquie, seront-ils expulsé. Le président turc doit en décider cet après-midi. Recep Tayyip Erdogan accuse ses diplomates d'avoir soutenu ouvertement l'opposant Osman Kavala, emprisonné depuis 4 ans sans jugement par le régime turc. Les organisations de défense des droits humains ne peuvent plus travailler librement à Hong Kong. C'est le message d'Amnesty International, l'association qui annonce aujourd'hui la fermeture de ses bureaux dans le territoire chinois. Une conséquence de la loi sur la sécurité nationale adoptée en juin 2020 par le pouvoir central chinois. En grande partie parti pour mettre fin aux importantes manifestations pro-démocratie sur place. Explication, Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International France.
C'est une journée extrêmement triste pour les droits humains. Ça faisait 40 ans que nous avions ce bureau régional à Hong Kong et qui documentait évidemment les violations des droits humains, faisait aussi un travail d'éducation aux droits humains. Mais depuis juin 2020, il y a une loi qui s'appelle la loi sur la sécurité nationale qui a été passée. Et ça a changé vraiment beaucoup, non seulement l'atmosphère, mais les risques concrets pour toute personne qui peut être soupçonnée d'avoir une activité politique qui porterait atteinte au gouvernement et très souvent association avec le terrorisme. Ce sont des arguments qui sont mis en avant pour réprimer vraiment de manière extrêmement sévère toute activité considérée comme politique. Donc nous voyons très bien que l'étau est en train de se resserrer, si vous voulez, et c'est pourquoi nous préférons en toute responsabilité fermer avant que nos salariés et nos bénévoles soient véritablement trop en danger.
La présidente d'Amnesty France, jointe par Christian Chéneau pour France Inter. En anglais, on appelle ça le name and shame, identifier une organisation ou une entreprise qui se comporte mal et la montrer publiquement du doigt. Méthode choc adoptée aujourd'hui par l'organisation Break Free from Plastic, libérez-vous du plastique. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Les militants ont établi un classement à partir de déchets plastiques retrouvés sur les plages, dans les rivières, les forêts et les rues, et les marques ont été identifiées.
Oui, plus de 330 000 déchets plastiques, Marion, pots de yaourt, bouteilles d'eau, bouteilles de soda, paquets de cigarettes, compote à boire et autres tubes de dentifrice, abandonnés dans la nature aux quatre coins du monde et dont il a fallu ensuite identifier la provenance, ce qui a été possible pour plus de la moitié des déchets. Alors largement en tête de ce palmarès peu reluisant, Coca-Cola, qui affirme que la protection de l'environnement est une priorité majeure et qui s'engage à permettre la collecte de tous les emballages de ses produits d'ici 4 ans, mais dont l'empreinte ne cesse d'augmenter, selon l'ONG. Break Free from Plastic. La multinationale américaine produit 108 milliards de bouteilles plastiques par an. Les collecter, les trier, les éliminer ou les recycler coûterait 27 milliards d'euros, soit quasiment le chiffre d'affaires de Coca l'an dernier. Et puis la nouveauté cette année, c'est donc l'entrée à la 8e place de ce palmarès du groupe français Danone, derrière le cigarettier Philip Morris et devant le groupe Mars. Danone qui n'a pas fait de commentaire à l'heure qu'il est. À quelques jours de l'ouverture de la COP26, on a parlé le programme des Nations Unies pour l'environnement rappelle que si rien ne change, la production de plastique devrait doubler d'ici 2050 pour approcher les 800 millions de tonnes par an.
Agnès Soubiran, merci à vous. Des sodas et des yaourts à la bonne vieille baguette française qui risque d'alléger à son tour votre porte-monnaie. Déjà touché ces jours-ci par les prix de l'énergie en hausse et l'inflation en plus générale. Dernier exemple en date donc, le prix du pain qui devrait grimper à son tour. Et pour cause, Dominique Enracht préside la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française.
Ça m'étonnerait qu'on ait une augmentation de 20 centimes. Hein. Je n'ai pas vu, même déjà 10, ça serait beaucoup. Ce qu'il faut voir quand même historiquement, c'est que cette baguette, en 20 ans, a pris 23 centimes. Ce qu'il y a, c'est que tous les feux sont au rouge. C'est-à-dire qu'on a le prix du blé, et ça, on dit rien. Les agriculteurs doivent vivre de leur travail, mais la farine a pris de l'augmentation sérieuse. L'énergie, qui est un poste qui est devenu important, puisque là, tout ce qui passe chez nous, en fait, est cuit. Donc ça, plus le SMIC, les salaires qui ont augmenté, plus les produits d'emballage avec lesquels on a même des ruptures. Donc là, c'est vrai que tout augmente. Ce serait qu'au niveau de leur coût de revient, chaque boulanger est bien responsable des tarifs qu'il met. Mais c'est vrai que là, ça serait logique qu'il y ait une augmentation.
Dominique Enracht avec Marc Fauvel chez nos confrères de France Info ce matin. Allez, à l'heure du déjeuner, dans le quartier du Louvre notamment, certains pourraient voir leur pause perturbée. Autour de 200 sans-papiers se lancent aujourd'hui à Paris dans un mouvement de grève à l'appel de la CGT. Ils œuvrent souvent dans l'ombre, font la vaisselle dans les arrières cuisine, livre les courses, ramasse les ordures et tous réclament aujourd'hui de meilleures conditions de travail et leur régularisation. Bonjour Julien Morcelli.
Bonjour Marion.
Plusieurs de ces sans-papiers manifestent en ce moment au café Marly, restaurant chic situé sous les arcades du Louvre.
Oui, d'un côté, il y a les touristes qui font la queue pour entrer au Louvre. De l'autre, les clients du Marly attablés et dans l'indifférence au milieu, une cinquantaine d'invisibles, comme ils se prénomment, manifestent. Parmi eux, 5 disent travailler dans ce restaurant. Marcane a 33 ans, il est serveur ici depuis 3 ans et n'a pas de papier.
Ma retraite, en fait, il m'oblige à faire des choses que je n'ai pas le droit de faire. Par exemple, il y a des services que ce n'est pas mon boulot. Mais souvent les chefs m'appellent pour dire moi quand il faut faire ça, ben, je ne peux pas refuser. Mais au niveau de la réception des marchandises par exemple, dans les chambres froides, tu nettoies ici, tu fais ça, bon je ne me sens pas respecté. Ouais, je travaille beaucoup. Je compte mes heures, mais j'ai pas le choix parce que là, à chaque moment, ils m'appellent pour venir travailler, même mon jour de repos. Mais je peux pas refuser parce que je connais ma situation déjà. Et aussi, ils savent, ils se profitent, voilà.
Et pendant la crise du Covid, Markane et les autres serveurs n'ont perçu aucune aide, aucun salaire pendant près d'un an, de quoi relativiser les 1800 euros qu'ils perçoivent pendant les meilleurs mois. Les syndicats demandent aux patrons de régulariser la situation de leurs employés, comme le leur permet une circulaire ministérielle. De son côté, la direction de l'établissement ne fait pas de commentaires.
Julien Morcellier en direct pour France Inter avec les moyens techniques d'Arthur Gerbeau. Encore un secteur où les emplois sont là, mais pas toujours. Les bras, les communes et associations manquent cruellement d'animateurs ces derniers mois. La faute, entre autres, à la Covid, qui a fait sauter plusieurs sessions de formation au BAFA. Selon un rapport publié aujourd'hui, 74% des acteurs de l'éducation populaire ont du mal à recruter à ces postes et 1 sur 10 restent non pourvus. Conséquence, certains d'entre vous n'ont pas pu mettre leur enfant en centre de loisirs pour les vacances. D'autres constatent que le temps périscolaire est mal ou peu encadré. Bonjour Sarah El Haïry.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire d'État en charge de la jeunesse. Alors, comment faire pour résoudre ce problème? Comment inciter plus de jeunes à postuler à ces postes?
La priorité des priorités, c'est de répondre à l'urgence. Et pour répondre à l'urgence, eh bien, je lance une aide immédiatement pour financer le reste, en général, à charge qui reste pour les jeunes qui passent le BAFA. C'est 200 euros supplémentaires pour le BAFA et le BAFD dès 2020. Donc, c'est une aide exceptionnelle, c'est 4 millions d'euros qui sont investis. Mais ça, c'est pour l'urgence. Après,
attendez, le BAFA, c'est 800 euros, autour de 800 euros. Donc ça veut dire que vous aidez à financer une partie, mais pas tout.
Une partie, mais en réalité, il y a les collectivités. Aujourd'hui, énormément d'entre elles accompagnent et aident au passage du BAFA. Le 200 euros, comment on l'a choisi? C'est ce qui reste en général à la charge du jeune à la fin. Après les aides de la région, les aides du département, les aides de la commune. Et c'est ce qui est le dernier bout à mettre pour le jeune en général.
Et c'est ça pour concerne ça que cette calcul. C'est sous condition de ressources? Ça concerne combien, de quelle partie, quel pourcentage des jeunes qui pourraient postuler au BAFA?
Ça sera pour 20 000 jeunes. Le plus important, c'est qu'il n'ait rien à avancer, puisque c'est l'association de formation du BAFA qui, se mettra en contact avec l'association qui gérera le financement de cette aide exceptionnelle. Donc, le jeune n'aura absolument rien à avancer.
Mais alors, là, vous me dites, c'est pour l'urgence. Sauf que c'est pour l'urgence, ça veut dire qu'on finance une partie de leur formation. Donc, c'est d'ici quelques mois. En attendant l'urgence urgente de maintenant, c'est-à-dire ces gens qui n'arrivent pas à trouver de centre aéré et de périscolaire pour leurs enfants.
Ça, on s'y attelle vraiment parce que là, typiquement, pendant les vacances de la Toussaint, on a 10 000 départs en colonies de vacances, mais énormément de centres aérés qui n'ont pas pu accueillir ou donner des avis favorables à tous les jeunes et tous les enfants qui voulaient y aller. Pour eux, en fait, on mobilise les associations employeurs pour recruter, redorer aussi l'image de BAFA et dire à tous ceux qui ont déjà le BAFA ou le BAFD, qui est le diplôme juste après, l'impact social. Quand on encadre un jeune, eh bien, on participe à sa citoyenneté, on participe à son épanouissement, à l'apprentissage. Donc c'est d'abord remettre au cœur de notre débat public ce beau diplôme, cette belle formation qui est celle de l'animation. Et au-delà de ça, moi je réunirai aussi les acteurs qui sont employeurs, donc les assos et les collectivités, pour aussi régler, on va dire, des problèmes d'attractivité autour des métiers du BAFA. Vous savez qu'il y a du temps partiel subi quand on fait du périscolaire ou de l'extrascolaire. Par exemple, on travaille très tôt le matin, on travaille très tard le soir, parfois le midi, mais entre-temps, on a rarement un temps complet. Moi, ce que je veux, c'est vraiment un renouveau des métiers de l'animation, reconnaître leur impact dans notre quotidien, leur impact sur l'apprentissage des jeunes, les compétences qu'ils transmettent, et aussi avec les employeurs, eh bien, voir comment on peut aller vers des temps complets, des temps partagés, plus intéressants.
Mais Sarah El Haïry, ils vont vous dire, ces employeurs, les communes et les associations, qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'augmenter notamment les salaires de ces jeunes.
Eh bien, je vous assure que pour l'instant, les premières chances que nous avons, c'est pas du tout ça. Ils ont envie, ils ont besoin de ces animateurs et de ces médiateurs. C'est absolument essentiel pour que les familles puissent travailler, pour que les enfants puissent grandir aussi et qu'ils soient finalement non pas occupés dans le temps où ils ne sont pas à l'école, mais au contraire qu'ils participent, qu'ils gagnent en autonomie. Et ces employeurs et ces assos, ils me demandent plusieurs choses. Ils me demandent, et c'est ce qu'on va ouvrir comme discussion, est-ce qu'on baisse l'âge de la formation du BAFA? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut commencer le BAFA plus tôt, dès l'âge de 16 ans au lieu de 17 ans aujourd'hui, et aussi des spécialités. Je vais vous donner un exemple.
Aujourd'hui, on va pas avoir le temps, désolé pour les exemples, Sarah et Laïri. En revanche, je vais vous demander une réponse par oui ou par non, parce que c'est ma dernière question, il nous reste quelques secondes. Est-ce que toutes les familles auront, pour les prochains congés, une solution pour leur enfant ?
Je ferai tout ce qui est de mon possible, de mon pouvoir, pour embarquer évidemment un maximum de oui.
Merci beaucoup Sarah Elahiri, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Merci de nous avoir répondu sur France Inter. Il n'y aura pas de centre logistique d'Amazon à Montbert, en Loire-Atlantique. La communauté de communes a décidé d'abandonner en cause des retards dus, je cite, à l'accumulation de contraintes techniques et juridiques. Au mieux, selon les élus, le centre n'aurait pas pu sortir de terre avant 2025. En novembre 2020, entre 1500 et 2000 personnes avaient manifesté contre cet entrepôt du géant du net, un entrepôt de 185 000 mètres carrés, jugé néfaste pour l'économie locale. Le président de la République parle industrie. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, en déplacement dans la Loire à Saint-Étienne, vient d'annoncer 800 millions d'euros qui seront débloqués pour le secteur de la robotique dans le cadre du plan France 2030. Emmanuel Macron qui visite en ce moment l'entreprise Silean, spécialisée dans la robotique, la vision et l'intelligence artificielle. La candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo, elle dévoile petit à petit les mesures de son programme pour 2022. La maire de Paris entend revaloriser, si elle est élue, le SMIC de 10 à 15%. Elle veut aussi autoriser les jeunes à voter dès 16 ans et elle exclut catégoriquement un ralliement au candidat écologiste Yannick Jadot. Autant dire que la campagne pour la présidentielle est lancée, et bien lancée. D'ailleurs, les maires sont de plus en plus sollicités pour parrainer les différents candidats déclarés comme Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Yannick Jadot, ou non déclarés comme Emmanuel Macron ou Éric Zemmour. Il faut 500 signatures d'élus locaux pour se présenter. Opération séduction en cours donc. Exemple dans l'Eure et la Seine-Maritime, Bradley de Souza.
Les candidats déclarés à la présidentielle n'ont pas attendu la rentrée pour draguer les élus locaux.
Ce sont des mails envoyés. J'en ai reçu, 4 ou 5 à peu près depuis l'été.
Théo Pérez est le maire sans étiquette de Bois-Guillaume.
Sauf erreur, j'ai reçu celle de Jean Lassalle, de Nicolas Dupont-Aignan, celle de Jean-Luc Mélenchon. Et le dernier en date, c'est une demande de parrainage, mais qui n'est pas une demande de parrainage tout à fait officielle, mais qui s'en rapproche quand même, de l'association des Amis d'Éric Zemmour.
Candidat déclaré, candidat pas encore déclaré, Jérôme Pascaud, le maire de Conches-en-Ouche, est furieux. Il s'est retrouvé dans une liste de mails qui soutient Éric Zemmour.
D'abord, je me suis jamais inscrit nulle part. Mon adresse mail, elle n'est pas à diffuser comme ça, elle n'est pas à utiliser comme ça. Je m'insurge contre ces méthodes, la hussarde, en essayant de voler les adresses mails des élus locaux. Voilà.
Et avec ces méthodes peu conventionnelles, dit-il, la campagne pour l'Élysée est officiellement lancée.
Dans les semaines qui viennent, on va recevoir beaucoup de sollicitations, mais ça fait partie du charme discret de notre République et de notre démocratie.
Le charme de la démocratie, comme beaucoup de maires, il s'attend à ce que les candidats à la présidentielle lui fassent les yeux doux jusqu'à obtenir son parrainage.
Un reportage France Bleu Haute-Normandie. En région parisienne, attention si vous prenez le volant, l'autoroute A13 est toujours fermée entre Le Chesnay-Rocancourt et le tunnel de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. À l'origine, un vol de câbles électriques hier qui a entraîné la perte d'équipements de sécurité dans un tunnel, selon la direction des routes. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
On peut donc voler des câbles dans un tunnel et en plus, ça n'est pas si compliqué que ça. Hein.
Oui, toutes les équipes d'enquête qui ont travaillé sur ces affaires spectaculaires de vol de câbles ces dernières années ont toutes été stupéfaites à chaque fois par la rapidité avec laquelle on peut embarquer des centaines de mètres de fibres bourrées de cuivre. Il faut avoir par contre le bon renseignement pour savoir où couper au bon endroit la bonne trappe d'accès, où sont connectés ces câbles qui permettent par exemple de gérer le système d'alarme anti incendie, par exemple. Et c'est le cas pour les câbles qui ont été volés hier soir dans le tunnel Ambroise Paré, côté Paris, à deux pas de la Seine et du tunnel Saint-Cloud qui ouvre vers l'autoroute A13, vous l'avez dit. Le boîtier de connexion des câbles était visiblement sécurisé avec son propre système d'alarme qui s'est déclenché à 18h de source policière hier soir. Mais le temps que les équipes d'intervention se rendent sur place, les braqueurs du tunnel s'étaient évaporés. Pour l'instant, on ne connaît pas le montant du butin et son poids en cuivre car on le sait, c'est ça qui est recherché, pas plus que le mode opératoire précis. Même si en général, les voleurs arrivent avec une camionnette et un treuil déguisé en sous-traitant dans ce genre d'activité. Le temps de tout rembobiner, quelques minutes seulement, et le tour est joué.
Emmanuel Leclerc, merci à vous. Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus contre-attaquent. Ces clubs de foot à l'origine du projet de Super League, concurrente de la Ligue des Champions, vont attaquer en justice les organes dirigeants du foot européen, UEFA et FIFA. Procédure auprès de la Cour européenne de justice, si on en croit le Financial Times. La sécurité des JO de Paris 2024, au cœur d'une réunion cet après-midi, comité ministériel présidé par le ministre de l'Intérieur, place Beauvau, avec les patrons de la police, de la gendarmerie, le préfet chargé du dossier, avec une attention particulière aux risques terroristes mais aussi aux risques cyber jugés élevés. Le numéro 1 du tennis français n'ira pas en phase finale de la Coupe Davis. L'équipe de France n'a pas sélectionné Gaël Monfils. Son capitaine Sébastien Grosjean lui a préféré Hugo Humbert et Arthur Rinderknecht. Tout autre genre de compétition, la saison des prix littéraires entre dans le vif du sujet. Les plus prestigieux seront remis dans les prochains jours. Ce lundi, c'est le Femina. Bonjour Ilana Moriosef.
Bonjour.
Prix Femina qui revient à une auteure qu'on connaît bien ici à France Inter, Clara Dupont-Monod, pour S'adapter chez Stock.
Oui, Clara Dupont-Monod, habituée déjà des succès de librairie, chroniqueuse à France Inter, et qui publiait cette année son livre le plus personnel, S'adapter chez Stock. L'annonce a été faite il y a quelques instants par la présidente du jury, Josiane Savigno.
Le prix Femina de cette année a été attribué au 8e tour de scrutin à Clara Dupont-Monod, par 6 voix contre 5 à Thomas Reverdy.
Voilà, dans S'adapter, Clara Dupont-Monod fait sur le mode du conte le récit de l'arrivée dans une famille d'un enfant handicapé. Cette édition du prix Femina couronne aussi l'écrivain turc Ahmet Altan pour son roman Madame Hayat, publié aux éditions Actes Sud, livre traduit par Julien Lapeyre de Cabanne. Ahmet Altan, journaliste, écrivain, arrêté lors de la vague d'arrestation de 2016 en Turquie. Il ne viendra pas recevoir son prix, il est sorti de prison, mais il n'a pas de passeport. Le prix Femina de l'essai, enfin, est attribué à Annie Cohen-Sonal pour Picasso, l'étranger, aux éditions Fayard.
Ilana Moriosef en direct pour France Inter du musée Carnavalet à Paris avec Eric Audra pour la liaison technique. Enfin, pour toute une génération, c'est comme perdre un ami. Le comédien James Michael Tyler est mort hier d'un cancer à l'âge de 59 ans. James Michael Tyler, c'était l'emblématique garçon de café Gunther dans la série Friends, éternel amoureux et conduit de Rachel.
Here you go.
Thank you.
Say, Rachel, I was wondering if you'd like to go to a movie with me sometime, as my lover.
Le producteur de Friends, Warner Bros, dit être en deuil d'un acteur aimé et qui faisait partie intégrante de la famille Friends. Dans un instant, comment nous éclairer, nous chauffer, nous déplacer demain pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Le gestionnaire du réseau électrique rendait aujourd'hui un rapport sur le sujet. Commentaires et contre-propositions avec Yves Marignac, porte-parole de l'association Negawatt. Dans quelques instants, appelez-nous 01 45 24 7000.
France Inter présente François Truffaut, film par film, un livre de Christine Masson et Laurent Delmas.
Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit.
Des 400 coups à Vivement Dimanche, de Jules et Jim à La Nuit Américaine, retrouvez tous les films de François Truffaut dans un beau livre richement illustré. Découvrez l'homme derrière le cinéaste fondateur de la Nouvelle Vague, ses influences, ses enthousiasmes, ses thèmes de prédilection. François Truffaut, film par film, un livre France Inter.
France Inter aime
La vraie vie de Buck John, le nouvel album de Jean-Louis Murat.
Quand l'amour s'en vient comme un torrent.
Des chansons attachantes et intemporelles en hommage à l'un de ses héros de BD de jeunesse, Buck John. Jean-Louis Murat, en concert le 19 avril au Trianon à Paris et en tournée dans toute la France.
Voilà la vie.
Retrouvez La vraie vie de Buck John, le nouvel album de Jean-Louis Murat, dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
Un coup d'œil au ciel de votre lundi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Beaucoup de nuages sur l'ouest et le nord.
Oui, on a une perturbation qui est arrivée par l'ouest et qui continue sa route. Donc, elle s'étend cet après-midi de l'Aquitaine vers les Ardennes et la Lorraine avec de petites pluies. Sur les régions à l'arrière, c'est-à-dire sur le nord-ouest et sur le nord, là, ça devient un peu plus variable. Alors, quelques éclaircies se dessinent, mais on a aussi quelques averses. D'abord, près de la Manche, sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire, les Charentes, puis vers la région parisienne en seconde partie de journée. Plus à l'est des Pyrénées, vers le flanc est et la Méditerranée, c'est encore bien ensoleillé aujourd'hui, parfois un petit peu voilé. En revanche, en Corse, le voile est de nuages est très épais. Les températures, elles sont globalement de saison. Comptez 14 à 18 degrés sur la moitié nord, 17 à 23 au sud. Un petit mot pour demain, on va retrouver nos petites pluies sur le nord-est et sur l'Auvergne-Rhône-Alpes le matin. Beaucoup de grisailles ailleurs. Ça s'éclaircira vraiment doucement l'après-midi. C'est vraiment le sud-est qui profitera du soleil toute la journée.
Merci Élodie Calac de Météo France. Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14. Marion Loup.
Notre avenir énergétique a-t-il l'allure d'un SMR, un mini-réacteur nucléaire? C'est l'un des exemples de technologie à développer présenté par le président de la République dans le cadre du plan France 2030. Autrement dit, la question de la fin du nucléaire ne serait plus du tout à l'ordre du jour pour l'exécutif. L'énergie atomique serait même un des leviers pour atteindre la neutralité carbone en 2050, comme prévu. Bonjour Yves Marignac.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de l'association Negawatt, association d'experts qui défend les économies d'énergie et le recours aux renouvelables. Ce matin, le gestionnaire du réseau électrique RTE a présenté ses scénarios très attendus pour 2050. Qu'est-ce que vous en pensez de ces scénarios ?
Alors, la première chose, c'est de saluer le sérieux avec lequel RTE a préparé depuis plus de 2 ans, avec beaucoup de concertation à laquelle on a participé, ces scénarios. Et ensuite, le point important sera d'en tirer les messages en prenant en compte l'ensemble des informations qui y sont contenues et pas en ne choisissant que un certain nombre d'entre elles. Deux éléments. D'abord, le premier enseignement de ce rapport, c'est quand même le fait que, pour la première fois, RTE dessine des trajectoires allant vers 100% d'énergie renouvelable pour l'électricité.
Il y a un scénario qui est fondé sur 100% d'énergie.
Il y a 6 scénarios de mix électrique, dont la moitié atteignent ce 100% renouvelable ou vont vers ce 100% renouvelable à l'horizon 2050-2060. Et donc, il y a un premier message qui est RTE reconnaît la faisabilité, la crédibilité d'une telle orientation, ce qui pour nous est fondamental. Ça fait une dizaine d'années que l'association Negawatt dit que c'est possible. C'est fondamental parce que ça ouvre des choix.
Oui.
Et c'est un peu paradoxal que au moment où ce choix s'ouvre, le président de la République semble vouloir le refermer en disant des réacteurs sont absolument nécessaires. Et ça, c'est le deuxième point à retenir de ce rapport, c'est que parallèlement à des scénarios sur le mix de production, RTE a travaillé à différents scénarios sur la demande. Et le premier message de RTE dans sa synthèse, c'est que un effort supplémentaire sur la maîtrise de la demande d'électricité sera crucial pour atteindre nos objectifs. Et ce qui ressort du rapport, c'est que plus on fait cet effort en fait sur la maîtrise de la demande, moins les réacteurs nucléaires deviennent nécessaires. Et donc c'est bien ça le débat qui est devant nous.
Et ça c'est ce que vous défendez à Negawatt. On a une question d'Angélique qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Angélique.
Oui, bonjour.
Vous parlez justement de la consommation d'électricité par les Français.
Voilà, c'est ça. En fait, moi, je me demande pourquoi annoncer une hausse de consommation énergétique de 30% d'ici 2050 et projeter une stratégie énergétique gouvernementale alors que le problème de surconsommation dû au retard d'isolation des bâtiments est toujours pas réglé.
Angélique vous pose cette question, donc Yves Marignac.
Merci de cette question. Enfin, la remarque est plus que pertinente, elle est centrale par rapport justement à la problématique qui est devant nous. Ce qui est devant nous, et RTE le dit très bien, et l'association Negawatt qui publie son propre scénario demain insiste beaucoup là-dessus, c'est un mur de réinvestissement dans notre système électrique, avec le vieillissement notamment du parc de réacteurs. Et on est dans une situation où, alors qu'on s'approche de ce mur, on pense que pour décarboner notre système énergétique, il faut accélérer sur l'électrification des usages, le véhicule électrique, le passage à l'électricité d'un certain nombre de process industriels.
Et réduire
accélérer aussi sur la réindustrialisation. Et donc, si vous faites ça, évidemment, ça tire la consommation d'électricité vers le haut, mais ça n'est pas du tout raisonnable d'augmenter cette consommation alors qu'on s'approche de ce mur de réinvestissement. Et donc, la clé pour maîtriser ce mur de réinvestissement, à la fois en termes de faisabilité technique et industrielle et en termes d'impact sur les coûts et donc sur les factures des ménages et des entreprises, c'est de renforcer dans le même temps, en même temps, la maîtrise de la consommation d'électricité. Et la remarque sur la rénovation thermique des bâtiments est extrêmement juste, parce que ce qui dimensionne aujourd'hui le problème du système électrique, c'est la pointe hivernale liée au chauffage électrique. Et donc, la rénovation de nos bâtiments pour réduire cette pointe est vraiment cruciale pour la suite.
Et c'est ce que vous défendez, mais ce que vous dites, c'est vous dites aux Français, en fait, il va falloir dépenser maintenant pour rénover vos maisons, changer vos fenêtres, isoler vos combles et pour dépenser moins d'énergie plus tard.
Alors ce qu'on dit d'abord aux Français, c'est que il faut avec une certaine urgence sortir d'un imaginaire où on fait comme s'il n'y avait pas de limite. Il y a l'urgence climatique, il y a des limites sur les matières premières, il y a des limites sur les usages des sols, etc. Et donc il faut aujourd'hui effectivement inventer collectivement des nouveaux modes de production et de consommation qui sont plus économes, non seulement d'énergie, mais de ressources. Et donc ça veut dire effectivement travailler à la rénovation thermique des bâtiments, ça veut dire mettre en œuvre de la sobriété dans la mobilité, par exemple. Tout ça demande des changements de comportement des Français, mais il faut être très clair. L'enjeu n'est pas de reporter sur les consommateurs un effort que certains d'entre eux d'ailleurs ne peuvent pas supporter aujourd'hui.
Mais donc comment on fait pour passer de 30 000 à 800 000 rénovations de thermiques par an, par exemple ?
Il faut mettre en œuvre des politiques publiques. On a sur la rénovation des outils aujourd'hui qui permettraient de faire différemment de la politique menée par le gouvernement, qui privilégie plutôt le saupoudrage et les petits gestes, les rénovations par étapes. Nous, on défend résolument l'idée de rénovation complète et performante, si possible en une seule étape, ou en tout cas en un nombre limité d'étapes. Il faut pour ça former les artisans pour mettre en œuvre de façon concertée et efficace, évidemment. Et c'est un gisement d'emploi très important. Il faut mettre en place des systèmes de financement qui permettent en fait de faire l'avance aux ménages et de se rembourser pour les prêteurs sur les économies d'énergie réalisées. Mais tous ces outils, ils existent aujourd'hui. On sait qu'ils sont opérationnels. C'est une question de volonté politique de les mettre en œuvre. Et encore une fois, c'est en creux ce que souligne RTE en disant que la maîtrise de la demande sera clé pour maîtriser cette trajectoire électrique, et ce qu'affirme depuis longtemps et encore demain avec son nouveau scénario l'association Négawatt, c'est une priorité urgente des politiques publiques pour le prochain quinquennat d'accélérer sur l'efficacité et la sobriété.
Alors ce que dit le gestionnaire du réseau électrique aussi, c'est qu'il y a un avantage économique quand même à garder une part de nucléaire. C'est moins cher, et c'est vrai qu'on paye en France notre électricité moins cher, notamment parce qu'on a un parc nucléaire.
Alors ça c'est un résultat effectivement que produit RTE qui nous semble discutable sur différents points. Le premier, c'est que ce qui ressort là aussi de l'ensemble des trajectoires travaillées par RTE, quand on regarde non seulement les différents scénarios sur l'offre, mais les scénarios sur la demande, c'est que engager des efforts d'efficacité et de sobriété apporte des économies sur le coût global du système qui peuvent être du même ordre de grandeur que le différentiel entre tel que le calcul en tout cas RTE, entre un scénario avec du nucléaire ou un scénario tout renouvelable. Ça, c'est un premier point. Donc, ça veut dire que l'enjeu, là aussi, RTE est d'accord sur la nécessité de développer de toute façon fortement les renouvelables. L'enjeu, c'est plutôt associer à ce développement des renouvelables la maîtrise de la consommation et, du coup, faire l'économie du développement de réacteurs nucléaires ou, au contraire, parier sur les réacteurs. Dans les coûts, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans la manière dont RTE calcule les coûts respectifs des renouvelables et du nucléaire, il y a un certain nombre de choix méthodologiques ou d'hypothèses qui sont plutôt favorables au nucléaire. Par exemple, RTE utilise le coût que le gouvernement a fourni sur les coûts de futurs EPR, qui est le coût calculé par EDF. On a, nous, des doutes importants sur le réalisme de cette hypothèse. Voilà, il y a encore une fois un certain nombre de biais de ce type. Donc ça, il faudra le regarder dans le détail.
Alors, Yves Marignac, en clair, ça nous coûte combien en fait de faire le changement de modèle ?
Alors, ce qui est clair là aussi, c'est que de toute façon, on a devant nous un horizon qui est d'inventer un nouveau système électrique. Là aussi, RTE le dit et on est en phase. Le système électrique de demain ne sera pas le même que celui qu'on a connu ces dernières décennies. On a besoin de l'inventer et on a besoin d'investir pour le mettre en œuvre. Et donc, on a devant nous une augmentation inévitable des coûts de l'électricité liée à ces réinvestissements. Et, encore une fois, pour maîtriser l'impact économique de ces coûts, la meilleure solution serait de maîtriser les consommations. Mais voilà, les choix sont devant nous. Il y a quand même un point essentiel dans tout ça, c'est qu'ils sont plus ouverts qu'ils ne l'ont jamais été. Et ça serait vraiment dommage, dramatique sur le plan démocratique, qu'au moment où ils sont ouverts, certains politiques cherchent à les refermer.
Question de Françoise qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour le porte-parole de Négawatt.
Oui, alors ma question est très orientée puisque j'habite près de Penly, là où il y a une menace de deux EPR. Et en tant que consommatrice...
C'est-à-dire de construction.
De construction, oui. Donc en tant que citoyenne, je reprends ce que disait Yves Marignac. Isoler une maison, c'est avoir du confort. Et refuser le nucléaire, c'est avoir plus de sécurité aussi dans son existence et ne plus avoir ce poids épouvantable des déchets futurs. Et ça, au niveau citoyen, c'est extrêmement important pour moi. En plus de la sobriété, bien évidemment, mais c'est pas très électoral non plus ce thème de sobriété. Il vaut peut-être mieux continuer à ce que les gens se saoulent complètement de surconsommation. C'est compliqué, je pense, au niveau politique. Mais au niveau citoyen et humain, c'est fondamental.
Merci Françoise pour cette question qui est aussi un commentaire. Hein. La réponse d'Yves Marignac.
Alors c'est encore une fois un commentaire tout à fait pertinent sur l'ensemble des enjeux à prendre en compte. On a du côté de l'association Négawatt clairement une lecture de la différence entre le nucléaire et les renouvelables qui ne s'attache pas que à leur caractère décarboné pour produire de l'électricité, mais à l'ensemble des enjeux de soutenabilité. Et pour nous, les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015 sont vraiment la matrice de réflexion dans laquelle il faut se projeter. Et le GIEC, notamment en 2018, dans un rapport sur les trajectoires, donc le GIEC qui travaille sur les questions climatiques, le groupe d'experts sur le climat, a, dans un rapport sur les trajectoires 1,5 degré, analysé différentes options de réduction des émissions de gaz à effet de serre au prisme de l'ensemble des objectifs de développement durable. Il ressort de cette comparaison que le nucléaire, parmi toutes les options, est celle qui a le moins d'impact positif sur les autres objectifs, autrement dit, qui est la moins soutenable. Donc ça, c'est un point...
Sur la question des renouvelables, pardon, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, on a au standard la question de Stéphane, que je vais être obligé de prendre dans ma voix, parce qu'il faut aller assez rapidement, maintenant on arrive à la fin de cet entretien. Stéphane qui nous demande, en clair, pourquoi il n'y a pas plus d'éoliennes en France. C'est vrai qu'il y a une sorte de mouvement de résistance en ce moment.
Alors il y a effectivement une résistance à l'éolien, mais... Il y aurait de la même manière probablement une résistance à de nouvelles lignes haute tension, à de nouveaux réacteurs nucléaires, etc. Il y a globalement une résistance à l'implantation de nouveaux équipements et à la saturation en nouveaux équipements. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles il faut agir en matière d'efficacité et de sobriété. C'est que c'est une manière de réduire les besoins de nouveaux équipements et donc d'augmenter leur acceptabilité. Les renouvelables, d'autre part, sont un moyen de diffuser la création de valeur de façon beaucoup plus harmonieuse dans les territoires et donc, lorsque c'est fait dans des bonnes conditions, de renforcer là aussi leur acceptabilité.
Yves Marignac, porte-parole de l'association Négawatt, merci de nous avoir répondu sur France Inter. On reparle de notre avenir énergétique ce soir dans le téléphone sonne sur Inter, 19h20, avec le président du gestionnaire de réseau d'électricité RTE. Vos questions, c'est toujours au 01 24 7000.
France Inter,
le 13-14.
13h43 à suivre sur France Inter, une bouffée d'air salé. Le feuilleton vous emmène cette semaine à la rencontre d'une saunière dans le marais de l'île de Ré. À suivre aussi le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Aujourd'hui, vous nous menez en bateau.
Ben oui, votre nom fleure bon la mer, donc je vais vous parler des conteneurs et de leur engorgement aujourd'hui.
Rendez-vous juste avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Aurélie Sfèze.
Bonjour Marion.
C'est une chanson avec le journaliste franco-ivoirien Serge Billet qui sort un livre intitulé, attention, boucher les jeunes oreilles, Johnny Hallyday répète si t'as des couilles sur ses liens entre le chanteur et l'Afrique.
Eh oui, on ne connaît pas bien les rapports qu'entretenait Johnny avec le continent africain. Et c'est dans ce livre que Serge Billet nous raconte pas mal d'anecdotes inédites, notamment cette histoire qui m'a accrochée, celle de la chanson Noir c'est noir.
Noir c'est noir de Johnny Hallyday a fait polémique en Afrique, dans certains pays et auprès de certains publics. Il faut savoir qu'à l'époque, on sortait de la colonisation. Et puis à l'époque aussi, le niveau d'instruction était inégal d'un pays à l'autre et d'un public à l'autre. Et donc, certaines personnes ont perçu cette chanson comme une insulte. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, c'est une insulte. Et donc, quand Johnny Hallyday est arrivé par exemple à Ouagadougou en 68, en mai 68, pour pouvoir se produire, il y a eu une polémique entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Intérieur, qui était un militaire, était favorable à ce que Johnny Hallyday chante à Ouagadougou. Le ministre de l'Éducation nationale, qui était un civil, estimait que cette chanson était une insulte et que Johnny avait une mauvaise influence sur les jeunes générations donc de ce pays. Et par conséquent, lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, il était bloqué, il est resté quelques heures et on l'a expulsé.
Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris. Ça me rend fou, j'ai cru à ton amour et je perds tout.
Donc le concert a été annulé.
Le concert à Ouagadougou était annulé. On expliquait aux fans de Johnny Hallyday que finalement, le chanteur s'était énervé à l'aéroport parce qu'il y avait un problème avec les organisateurs et c'est pour ça qu'il a préféré ne pas descendre de l'avion et qu'il est reparti aussitôt. Voilà, donc on a menti au public en laissant croire donc une fable alors que c'était à cause de la chanson Noir c'est noir qu'il n'a pas pu chanter donc à Ouagadougou. Plus tard, lorsqu'il se produit au Togo, au moment où il chante la chanson Noir c'est noir dans le stade, le public se lève et se met à tout casser et le concert a été interrompu.
Peut tout changer, je le trouverai. Il ne faut plus en douter, il faut essayer. Noir c'est noir.
Ceux qui ont été blessés par cette chanson, ils ont été blessés par quoi ?
C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Pour moi, c'est une chanson que j'aime, en tout cas personnellement, qui a été interprétée par Johnny Hallyday, puis y compris par des artistes que je connais, comme la chanteuse guadeloupéenne Tania Saint-Val, qui l'a chantée en duo avec lui. Donc pour moi, c'est une très belle chanson.
C'est pas une chanson de Johnny Hallyday, c'est une reprise.
Oui, c'est une reprise d'une chanson qui existait déjà et qui a été, le texte a été écrit par le parolier Georges Jabert, qui a voulu un peu raconter dans cette chanson son mal-être et puis son insuccès, puisqu'il a essayé de faire aussi une carrière et puis ça n'a pas fonctionné. C'est une reprise, mais au-delà de la question de la reprise, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un seul mot peut créer un blocage. Voilà. Et donc après, c'est tout l'art de pouvoir expliquer. À cette époque-là, on n'avait pas le temps d'expliquer. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de temps et plus d'opportunités de pouvoir comprendre des choses.
Et c'est l'utilisation du mot noir associé au désespoir qui crée le trouble hein, dans cette période post-coloniale, Aurélie.
Oui, et Johnny Hallyday a sillonné l'Afrique pendant toute cette période aussi de révolte de 1966 à 1971. Il a importé avec lui la vague yéyé dans toutes les capitales, à Abidjan, à Dakar, Bamako, Ouagadougou. Et malgré le scandale de Noir c'est noir, il était toujours et quand même l'idole des jeunes en Afrique.
Si autant d'Africains ont pu communier avec lui, c'est qu'il se sentait totalement en harmonie avec cet homme, dans le rythme.
Une fraternité.
Oui, il y a une fraternité avec cet homme qui, quelque part aussi, est africain dans sa façon de s'exprimer. Ce qui est étonnant, c'est que pendant toute la carrière de Johnny, on a parlé de son amour pour les États-Unis, on a parlé de Johnny l'Américain et jamais de Johnny l'Africain. Et ça, c'est dommage.
Quand il chante toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Ce qui rejoint l'Amérique et l'Afrique, c'est le blues.
Oui, le blues et le rock. L'Afrique n'était pas une terre de rock. L'Afrique n'était pas une terre de twist. C'est Johnny qui a donné cette capacité à l'Afrique d'épouser le rock et d'épouser le twist. Johnny est vraiment, au-delà d'une chanson qui peut faire polémique, Johnny est vraiment quelqu'un qui était très aimé sur le continent.
Merci Aurélie Sfez. Le livre de Serge Billet qui raconte les aventures de l'idole des jeunes en Afrique s'intitule Johnny Hallyday répète si t'as des couilles. À
c'est
demain
comme
Aurélie.
Du bigard.
C'est beau, c'est magnifique. <rire> 13h49 sur Inter, un peu d'air marin dans le feuilleton cette semaine. En ces vacances de Toussaint, on vous emmène dans les marais salants de l'île de Ré à la rencontre de plusieurs générations de sauniers, le nom donné au sud de la Loire à ceux qui récoltent le sel. On compte une centaine de sauniers sur l'île de Ré, pour beaucoup réunis dans une coopérative. Leur saison est finie à l'heure qu'il est, mais ce reportage a été réalisé au plus fort de l'activité. Au mois d'août, Michel Jambard, saunière à Ars-en-Ré, a accueilli Sarah Guibaudot dans son marais.
Vous avez trouvé facilement ?
Oui.
C'est magnifique à cette heure-là de bon matin.
C'est pas mal, hein ?
Le meilleur moment de la journée.
C'est calme. Il n'y a pas trop de vent. Tout le monde se réveille tranquillou. Les oiseaux, nous.
Alors, il faut juste faire attention
là où vous marchez et rester à distance du simoussi. C'est l'outil que je tiens dans la main.
Donc c'est une grande perche.
C'est un outil spécifique pour récolter le gros sel, qui permet de pousser l'eau et ensuite de tirer le sel à nous pour le former en petite pyramide sur le bord du chemin. Le manche fait 4,50 m, donc il faut rester à distance de ça pour pas que je vous bigne. J'ai ces trois-là à sortir, et après, il y en a 8. Je fais une pause vers 8h30 après.
Et quand vous me dites que vous en avez 8 à récolter, ce sont des bassins qui font quoi? 3 mètres? Combien ils font, ces bassins qu'on a sous les yeux?
Alors, à l'île de Ré, les aires sonnantes, donc les bassins de récolte, ce sont les cristallisoires qui font 5 mètres sur 5, qui produisent environ 40 kilos de gros sel tous les deux jours. Mais on peut discuter quand même, hein. Il faut juste que je sois vigilante aux... Donc les aires sonnantes, je les remplis en même temps. Si on discute et qu'on part dans la discussion, je risque d'oublier de refermer les bouchons. Et donc si je noie les bassins, c'est pas très bien.
Alors là, je vous vois ouvrir des bouchons donc, dans des petites canalisations.
Et le principe du marais salant, c'est aussi donc, de faire circuler de l'eau de mer tout au long d'un circuit qui fait sans doute... En ce qui me concerne, je sais pas, 5 à 6 kilomètres. Et du coup, tout le marais a été aménagé à partir du Xe siècle à l'île de Ré, selon les principes des vases communicants. Chaque bassin est un peu plus bas que le précédent pour permettre à l'eau en fait, de circuler par gravité naturellement. Les anciens nous ont appris à faire quelques observations. Et parmi les observations, il y a ces espèces de taches qui apparaissent à la surface de l'eau, qui sont des irisations. Enfin, ça fait comme des petits arcs-en-ciel, là. Ça, en général, c'est signe de pluie. Donc, quand on voit ces petites taches qui apparaissent à la surface de l'eau, c'est pas forcément génial. Et ça veut dire qu'il va y avoir de l'humidité dans les heures ou les jours à venir, quoi.
Vous voulez du café ou du thé ?
Moi, le café, ça me va bien, mais je prendrai comme vous. Votre journée de saunière, donc ça commence ainsi par la récolte du gros sel.
Ouais, je préfère récolter le gros sel le matin, dès le lever du jour si possible, si j'arrive à me réveiller comme il faut. J'ai 51 aires sonnantes. On récolte le sel dans une aire sonnante tous les deux jours, y compris les réglages d'eau, parce que c'est important, forcément. L'eau qui s'est évaporée, il faut la remplacer. Les anciens nous ont appris à finir les réglages d'eau, etc., à 11h, pour que ce soit le marais qui travaille, en fait, entre 11h et 17h. Et ensuite, on réembauche en fin d'après-midi, vers 17h, pour faire la cueillette de la fleur de sel. Et puis, la journée se termine vers le coucher du soleil, parce que c'est un moment aussi sympa que l'aube.
Une semaine dans les marais salants de l'île de Ré, feuilleton de Sarah Guibaudot réalisé par Lucie Le Marchand. C'est à suivre demain sur France Inter.
France Inter. Le 13-14.
Mais pour l'instant, à 13h53, c'est l'heure du vif de l'histoire, votre chronique d'histoire et d'actualité avec Jean Lebrun. Que se passe-t-il, Jean? Dans les terminaux du Havre, les boîtes d'acier et d'aluminium s'emboîtent les unes sur les autres sans pouvoir être transportées plus loin. Dans les ports de la côte ouest des États-Unis, c'est pire, des dizaines de porte-conteneurs ne sont plus déchargés. Pourtant, depuis la fin des années 90, le conteneur avait imposé sa logique. Flux tendu, zéro stock, juste à temps.
Le premier conteneur destiné à être standardisé apparaît dans le New Jersey 1956, né de l'imagination fertile d'un inventeur Aurélie dont le nom mériterait d'être mieux connu. Malcolm MacLean, il a mis le monde en boîte et ses boîtes ont changé le monde. C'était au départ un simple tenancier de station-service. Il achète son premier camion à 30 ans, en 1934 et en 1950. Il est à la tête de la seconde flottille de transport routier des États-Unis, 2000 véhicules. Et il fait le choix de passer au transport maritime. Et il se dit... Je pourrais peut-être embarquer mes camions sur les bateaux, ou même seulement les remorques, ou mieux encore, des boîtes normalisées, et pour certaines, pourquoi pas, réfrigérées. Une fois arrivé à destination, je pourrais me passer, ou à peu près, des dockers, une corporation qui empoisonne le monde des armateurs. La compression des coûts passera ensuite par le calcul des routes les plus économiques. Je sais pas, j'ai des ananas à transporter en conteneur d'Honolulu à Auckland. À quelles heures? À quelle vitesse faut-il que je travaille? L'informatisation va appuyer de manière déterminante la conteneurisation.
Beaucoup de résistance au début, donc Jean, ça commence assez lentement, mais le mouvement s'accélère dans les années 60.
Avec la guerre du Vietnam, MacLean a l'habileté de se rendre indispensable à l'armée américaine. Un port spécial est aménagé à 300 km de Saïgon. Il reçoit des conteneurs de corned beef, de fruits, de légumes, de cigarettes, d'ice creams. Et il songe évidemment, MacLean, aux boîtes qui risquent ensuite de rentrer vides aux États-Unis, et il fait entrer Hong Kong, Taïwan, Singapour dans son engrenage. La conteneurisation commence à déplacer les équilibres commerciaux vers l'Asie orientale.
Et le jour de la mort de Malcolm MacLean à 88 ans, tous les porte-conteneurs du monde abaissent leur pavillon.
C'était en 2001 et depuis cette date, les 10 porte-conteneurs ont grandi dans des proportions inimaginables. Construits par des chantiers géants en Corée du Sud ou à Singapour, on en est maintenant, Aurélie, à des records de 20 ou 23 000 conteneurs sur un seul bateau. Et les ports qui se regroupent dans trois grappes, Asie orientale, Europe, États-Unis, sont devenus méconnaissables, comme décontextualisés des côtes, les produits illicites ou les humains clandestins risquant de se glisser dans ou entre les boîtes. Les terminaux sont sécurisés jour et nuit, un peu comme les zones militaires d'autrefois. Quant aux marins, eh ben leurs métiers sont tertiarisés. Le poste de commandement des anciens capitaines qui travaillent à la CGM, CGA, eh ben c'est dorénavant un étage du siège de Marseille où ils calculent sur leurs écrans les trajets les moins chers en fonction des aléas de la météo et en évitant les ruptures de vitesse afin de ne pas utiliser trop de carburant.
Et oui Jean, on reparle des prix de l'énergie. Vous nous dites qu'un des facteurs qui dérègle le trafic aujourd'hui, c'est l'envol du prix des carburants.
Mais les chefs d'entreprise vous diront aussi que le monde est le même qu'avant la crise et dès lors que l'activité est repartie, les flux se sont répartis comme avant, sauf qu'il faut rattraper les retards des périodes de confinement. Si on prend l'exemple du secteur énergétique, il faut en Europe aux États-Unis des cellules solaires, des batteries électriques, des pales, des moteurs d'éoliennes et l'engorgement vient vite. Aujourd'hui, le président Biden demande aux logisticiens de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour vider les ports de la côte ouest. Quant à l'augmentation que vous évoquez, des tarifs des carburants, elle devient vertigineuse. Au point qu'on en est à se demander s'il est encore très profitable de faire venir par conteneur de l'autre extrémité du monde, je sais pas moi, les sèche-cheveux ou les ours en pluche pour Noël. La première crise dans la longue histoire ascensionnelle des conteneurs va-t-elle modifier les routes qu'ils empruntaient avec de plus en plus d'assurance, enfin à propos d'assurance, on n'a pas parlé des risques d'accident qui vous font dresser les cheveux sur la tête, rien que d'y penser.
Bon Jean Lebrun, je ne vois pas vos cheveux se dresser sur votre tête.
Bon.
Merci beaucoup et à demain. Juste après les infos, ce sera la Terre au carré, quête vertigineuse aujourd'hui à la recherche des origines de la vie. Restez à l'écoute.